Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. En République démocratique du Congo, les recherches continuent sur le lac Maïndombe dans l'ouest du pays pour retrouver les survivants du naufrage samedi soir d'une embarcation sur le lac qui a fait au moins 30 morts et des dizaines de disparus. Ce sera annoncé le maire d'Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombe. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Selon le maire d'Inongo, Simon Mbowemba, il y a 183 rescapés, le bilan étant encore provisoire. Le maire a pointé l'état de vétusté du bateau de type baleinière. Le bateau avait embarqué plus de 350 passagers, précisant que les recherches allaient se poursuivre sur le lac Maïndombe. Cependant, le nombre exact de passagers est difficile à établir en raison de la présence de clandestins sur ce bateau, quasi dépourvu de route. La RDC est souvent endeuillée par ce genre de tragédie. Les naufrages se soldent souvent par des bilans très lourds en raison de la surcharge et de la vétusté des embarcations, de l'absence de gilets de sauvetage à bord et du fait que beaucoup de passagers ne savent pas nager. Mi-avril, au moins 15 personnes avaient été tuées et des dizaines d'autres portées disparues dans le naufrage d'une embarcation entre Goma et le territoire de Kalehe sur le lac Kivu. Au chevet des victimes, le président Félix Tshisekedi avait annoncé le port obligatoire de gilets de sauvetage par les passagers voyageant sur le lac Kivu.
RDC toujours, un agent de l'équipe de riposte anti-Ebola a été tué lors du soulèvement samedi d'une partie des habitants d'un village de la province du Nord Kivu dans l'est du pays, où un centre de santé a été aussi pillé, selon les autorités. Une partie de la population du village de Vusairo, dans la zone de santé de Mabalako, s'est soulevée et a attaqué l'équipe locale de la riposte contre l'épidémie d'Ebola, affirme le bulletin quotidien du ministère de la Santé daté de dimanche. Bilan, un hygiéniste de l'équipe de prévention et de contrôle des infections est décédé des suites de ses blessures lors de son transfert vers l'hôpital, indiquent les autorités sanitaires dans un bulletin. Cameroun, suite au conflit en cours dans les zones anglophones, les universités privées de la région vont s'installer ailleurs dans le pays pour échapper à l'insécurité. C'est le cas de l'Institut Saint-Louis, jadis basé à Bamenda, chef-lieu de la province anglophone du Nord-Ouest, un établissement qualifié de pionnier dans la formation sur les métiers de santé. L'Institut est désormais implanté à Douala, la capitale économique du Cameroun, nous dit notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Ndap.
Dans une ambiance studieuse, une soixantaine d'étudiants francophones et anglophones suivent les explications du professeur dans le campus de l'Institut Saint-Louis à Douala. Angèle est l'une des étudiantes. Elle vient de Batibo, une localité située à 50 minutes de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, en zone anglophone.
Normally, I wanted to go to Bamenda.
Angèle Babekeli, étudiante en soins infirmiers.
Studies here are good.
Les études sont bonnes ici. Les enseignants sont compréhensifs et dispensent bien leurs cours. À cause de la crise, quand j'ai appris qu'une branche de Saint-Louis avait été ouverte à Douala, j'étais contente et j'ai décidé de venir ici.
Aimé Beyasso Fozok est un autre étudiant. Il aspire à une carrière de technicien principal d'odontostomatologie et il n'a pu suivre sa formation à Bamenda.
J'ai pris le concours récemment qui m'a amené à Bamenda. Il aurait dû avoir des interférences avec les parents puisque comme c'est en zone d'insécurité, les parents avaient une résistance à nous envoyer à Bamenda.
En 16 années de fonctionnement, l'Institut Saint-Louis avait à Bamenda ses propres locaux, des équipements modernes, mais aussi des enseignants expatriés.
Tout ça est fini aujourd'hui et à 62 ans, 63 ans, je recommence quelque chose que je pensais avoir déjà fait.
Docteur Nick Ngwanyam, promoteur de l'Institut Saint-Louis de Bamenda.
Nous avions une enseignante indienne qui est maintenant en Ouganda. Avant de quitter Bamenda, quand les choses allaient bien, nous avions 1600 étudiants. Plus de la moitié étaient francophones, venant des régions francophones pour étudier avec nous. Et nous construisons actuellement une autre école à Ndou dans mon village. Nous avons dû déménager de Bamenda parce que la vie était très inconfortable. Il y avait déjà beaucoup d'enlèvements, donc je n'avais qu'à partir. Heureusement, je suis allé au ministère de l'Enseignement supérieur. J'ai reçu l'autorisation de créer un autre institut à Douala.
50% des investissements du système éducatif dans les deux régions anglophones ont été affectés par la crise qui sévit depuis 2016, selon un rapport du groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, qui regroupe les plus grands opérateurs économiques du pays. Les pertes financières sont énormes pour le promoteur de l'Institut Saint-Louis, Dr Nick Ngwanyam.
Au moment où j'ai quitté Bamenda, les activités économiques sur l'ensemble de la région du Nord-Ouest avaient chuté de 40%. C'est vraiment pénible pour nous. La meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est le retour de la paix afin que nous puissions continuer nos activités.
Pour relancer les activités académiques de l'Institut Saint-Louis, qui loue actuellement des locaux pour fonctionner, le gouvernement a accordé à son promoteur l'autorisation d'ouverture de 3 nouvelles filières de formation pour le nouveau campus de Douala, encore en construction. Emmanuel Junta, de retour de Douala, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Afrique de l'Ouest maintenant, la lutte contre les djihadistes au Sahel, nouvelle attaque hier contre une église catholique dans le nord du Burkina Faso. 4 fidèles ont été tués pendant une messe à Toulfé, un village de la province du Yatenga. Les attentats contre des chrétiens se multiplient dans cette région. Jean-Roger Bion.
L'évêque de Waiguya, Justin Kietega, a annoncé que la communauté chrétienne de Toulfé était réunie pour la prière dominicale. Des individus lourdement armés ont attaqué l'église vers 9h, locale GMT, au moment où les fidèles célébraient la messe. Selon un habitant de Toulfé, cette attaque a occasionné une panique dans le village où de nombreux habitants se sont réfugiés chez eux ou dans la brousse. Des renforts ont été déployés sur les lieux. Les attaques attribuées à des groupes djihadistes contre les églises ou des religieux chrétiens se sont multipliées récemment au Burkina. Le 13 mai, 4 catholiques ont été tués lors d'une procession religieuse en l'honneur de la Vierge Marie à Zimtenga. La veille, 6 personnes, dont un prêtre, avaient été tuées lors d'une attaque pendant la messe dans une église catholique de Dablo. Le 29 avril, 6 personnes avaient été tuées lors de l'attaque de l'église protestante de Silgadji, toujours dans le nord. Plusieurs imams ont également été assassinés par les djihadistes dans le nord depuis le début des attaques, il y a 4 ans. Ces attaques sont attribuées à une douzaine de groupes djihadistes, dont Ansarou l'Islam, le groupe de soutien à l'islam aux musulmans, et l'organisation État islamique au Grand Sahara.
Contestation au Soudan, le principal parti d'opposition a annoncé dimanche rejeter la grève générale prévue demain mardi par les leaders de la contestation. En pleine impasse de les négociations avec les militaires sur une transition politique dans le pays, ce rejet reflète une division au sein du mouvement qui fait pression sur l'armée en vue d'un transfert du pouvoir aux civils. Fidel Nyongabo.
En réaction à l'impasse des discussions avec les généraux du Conseil militaire de transition, l'Alliance pour la liberté et le changement, ALC, et fer de lance du mouvement de contestation, avait appelé vendredi à une grève générale, les 28 et 29 mai, soi-disant contrainte de recourir à cette action pacifique faute d'alternative. Le parti Al-Houma, dirigé par l'ancien premier ministre Sadek Al-Mahdi et membre de l'ALC, a estimé qu'une grève générale est une arme qui ne devrait être utilisée qu'après avoir fait l'objet d'un consensus, appelant à maintenir l'unité au sein de cette alliance. Un autre acteur majeur au sein de l'ALC, le parti du Congrès soudanais, a lui exprimé son adhésion à la grève générale peu après l'annonce d'Al-Houma. Plusieurs corporations professionnelles allant des banquiers aux médecins ont répondu favorablement à l'appel à la grève. Les négociations entre le Conseil militaire et l'ALC ont été interrompues le 20 mai en raison des désaccords sur la composition du futur Conseil souverain qui doit être mis en place pour gérer la transition. L'ALC exige que cette instance soit présidée et composée majoritairement de civils. Les généraux souhaitent à l'inverse prendre la tête de cette instance et obtenir la majorité des sièges. Le Conseil souverain doit se substituer au Conseil militaire pour une période de 3 ans avant la tenue des premières élections post-Béchir.
Élection au Malawi, la justice du Malawi a repoussé dimanche à une date indéterminée la publication très attendue des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 21 mai. Et ce, dans un climat de confusion et de tension croissante dans le pays. Samedi, la haute cour de la capitale Lilongwe a ordonné à la commission électorale de recompter tous les bulletins de vote dans un tiers des districts électoraux du pays à la demande du principal parti d'opposition qui a fait état d'irrégularité. Les derniers chiffres divisés jeudi dernier, après dépouillement des 3/4 des bureaux de vote, accordaient un avantage au chef de l'État sortant Peter Mutharika, crédité de 40,49% des suffrages, devant son rival du parti du Congrès du Malawi, Lazarus Chakwera, avec 35,44% des voix. Et l'actualité américaine pour terminer, le président Donald Trump poursuit sa visite d'État au Japon. Le chef de l'exécutif américain a maintenu ce lundi la pression en vue de réduire le déficit de la balance commerciale américaine par rapport aux pays hôtes.